France Info.
Bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là avec Guy Birenbaum et notre invité ce matin est ancienne garde des Sceaux, soutien de Benoît Hamon.
Bonjour Christiane Taubira. L'un des événements de la campagne présidentielle se produira ce soir. Il s'agit du débat qui réunira sur TF1 à 21h 5 des 11 candidats à l'Élysée. Benoît Hamon que vous soutenez. Christiane Taubira y participera évidemment. Mais 5 candidats alors qu'il y en a 11 au total, 6 candidats ne seront pas là. Et Nicolas Dupont-Aignan, qui fait partie de ces 6 autres candidats, dit petit candidat, s'en est indigné samedi soir sur l'antenne de TF1, nous l'écoutons.
TF1 ne respecte pas le principe d'égalité des candidats. Les Français savent qu'il n'y a pas de grands candidats et de petits candidats, comme l'a écrit votre chaîne, au nom des millions de Français, qui ne supportent plus cette loi du plus fort. Cette confiscation de la démocratie, j'ai le devoir aujourd'hui de quitter votre plateau. Je vous remercie.
Donc on ne parle
pas de
votre programme.
Je vous souhaite une bonne soirée. Merci madame.
Écoutez, je regrette votre choix.
Il n'y a pas de grands candidats et de petits candidats, Nicolas Dupont-Aignan. Êtes-vous d'accord, Christiane Taubira ?
Incontestablement, il y a des différences d'emprise sur la société, il y a des différences de poids relatif de certains corpus d'idées, cela ne fait pas l'ombre d'un doute, mais c'est vrai qu'une élection présidentielle, qui est une élection démocratique, vraiment profondément démocratique, que celle-là ne devrait pas faire de différence entre ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie a priori comme grand candidat et petit candidat. Ceci étant, nous sommes dans une démocratie institutionnelle qui est organisée. Il y a des candidats qui portent derrière eux le poids d'engagement de milliers de citoyens et le regard sur ces candidats-là, forcément, n'est pas le même. Regardons les choses franchement.
Ça pose,
c'est un vrai problème. Moi, je l'ai vécu
produit,
en 2002.
Hein. Voilà, vous étiez candidat
en 2002.
Je l'ai vécu
en 2002, il n'y avait pas de débat de premier tour, mais il y avait un traitement différencié
entre les
candidats,
grands et les petits candidats.
Et il y avait une ignorance systématique de certains candidats. Et moi, je me réclamais de porter de grandes et belles idées, de porter de beaux patrimoines de valeur.
Donc vous comprenez la frustration des petits candidats aujourd'hui.
Je peux comprendre cette frustration, mais l'exercice aussi appelle des arbitrages. Je pense que même sur une chaîne publique, la question d'organiser un débat avec 11 candidats se pose en termes de clarté, d'efficacité, de temps de parole pour chacun.
Ce sera fait le 20 avril, les 11 candidats seront sur le plateau de France 2.
France 2 le fait, la chaîne publique. C'est heureusement d'ailleurs que nous avons des chaînes publiques qui font cet effort-là. Mais il demeure qu'en termes d'efficacité, en termes de clarté. Donc il faut réfléchir à des formules. Il ne faut pas faire juste des choses mécaniques et automatiques. Il faut réfléchir à des formules efficaces.
C'est la première fois qu'un candidat du Front National participera à un débat. Dans l'histoire de l'élection présidentielle, jamais un candidat du Front National n'avait participé à un tel débat. Ça vous suggère quelle réflexion ? Après un quinquennat de François Hollande, le Front National est annoncé comme quasi certain d'être au second tour.
Alors, étant donné que le Front National est un parti répertorié, reconnu officiellement, évidemment, lorsque nous défendons les valeurs de la démocratie, y compris contre les ennemis aussi déterminés que le Front National, les ennemis de la démocratie, les ennemis de la République, comme le Front National, ennemis de la République en ce sens que c'est un parti politique qui est absolument incapable de concevoir la façon dont nous faisons citoyenneté dans la nation française, c'est-à-dire avec nos singularités, nos appartenances, nos différences, mais unis justement par cette appartenance supérieure à la nation. Donc ce sont des ennemis de la République et de la démocratie. Il se trouve que nos règles font qu'il s'agit d'un parti officiel, donc il est concevable qu'il participe à un débat. Il est moins concevable qu'il jouisse de la complaisance qui lui est assuré la plupart du temps et qu'il soit traité de façon très banale. Il porte des idées extrêmement. Il y a des interviews. Je suis pas là en train de jouer au procureur public. Mais il y a des interviews où il est évident que les interrogations, le comportement contribuent à la stratégie du Front National. Plutôt une tactique, d'ailleurs, qui consiste à gommer, à polir, les aspérités. Non, on n'est pas là pour ça. Je suis pas venue faire, où on consacre la demi-heure à la question. On fait des recherches d'archives. Mais je veux dire que je ne suis pas la seule à voir que le Front National est traité dans un certain nombre d'émissions de façon qui ne va pas au fond de ce que représente fondamentalement ce parti. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'inviter. Je dis très clairement que, aussi bien dans leurs propos, dans leur histoire, dans ce qui ne renie pas, dans leur comportement, dans leur pratique, Ce sont des ennemis de la République et des ennemis de la démocratie. Donc je dis qu'il y a des circonstances où cela doit apparaître à travers des questions, à travers des mises en cause, à travers des demandes d'explications.
Voilà. Enfin, je ne dis pas que ça ne se fait jamais. C'est votre rôle, d'opposant et vous pouvez tenir.
Je ne dis pas que ça ne se fait jamais. Je suis pas au Front National. Le Front National est opposant à la démocratie, opposant à la République,
pour un parti
opposant au gouvernement.
Pour un parti
je suis pas opposante du
Front
National.
Pour un parti qui participe aux élections en respectant les règles depuis 1900 au moins.
Il y a des,
74,
il y a mille façons de
c'est difficile de le qualifier d'opposant à la démocratie, mais enfin,
de
ça, c'est votre responsabilité.
Non, je maintiens que ce sont des ennemis de la démocratie et de la République, et je l'argumente. On va passer manifestement l'émission là-dessus, suis profondément désolée, parce que je refuse de participer, d'être l'idiote utile de ce parti politique qui a réussi depuis une dizaine d'années au moins à s'inscrire au centre de toute réflexion politique dans ce pays.
Donc
je dis que ce sont des ennemis de la démocratie dans la mesure où la démocratie c'est le respect des règles, ce sont des personnes qui constamment s'affranchissent des règles, qui constamment violent les règles
Madame
et imposent les règles
Madame
aux autres.
Madame Teubert, j'ai une question à vous poser là-dessus. Vous dites que c'est à la fois que c'est un parti qui peut participer à la vie démocratique. Et c'est que
parce qu'il est officiel.
Est-ce qu'on doit le traiter comme un parti comme les autres, ou est-ce que nous, journalistes, nous devons le traiter comme un ennemi de la démocratie, selon vous ?
Mais je ne mets pas en cause les journalistes. Je dis simplement qu'il y a...
Comment
je
doit-on
dis
le
simplement...
traiter
Laissez-moi vous répondre, si vous voulez que je vous réponde. Oui. Monsieur, un peu de patience ce matin, quand même. Donc, je dis que, puisque c'est un parti officiel, il est évident que les médias doivent le traiter comme ils traitent tous les partis officiels. N'empêche que lorsque vous interrogez, vous m'obligez à dire vous, mais lorsque des représentants d'un parti sont interrogés, vous les interrogez selon leur programme, selon leur pratique, selon leur rapport aux règles, selon leur rapport aux lois, etc. Voilà ce que je suis en train de dire. Donc, je ne dis pas que machin, moi ce serait mon rêve que le Front National n'ait pas pignon sur rue de cette façon-là, mais on n'est pas là pour réaliser mes rêves. La réalité d'une démocratie, c'est que même ce qui nous déplaît, même ce qui nous dérange, tant que c'est conforme aux lois, ça a sa place dans l'espace public. Donc, le Front National fait partie des partis. C'est un parti officiel. Il demeure que le Front National a des pratiques, a une histoire, a des filiations intellectuelles et idéologiques, a des déclarations, a des comportements, tient des propos qui font que, voilà, ça n'est pas un parti comme les autres. Et de la même façon qu'on interroge le PS sur ses positionnements, sur sa pratique au pouvoir, sur ses différends à l'intérieur, sur ses divergences, etc. De la même façon qu'on interroge un parti républicain de droite sur sa vie interne, ben voilà, moi je trouve qu'on interroge moins. Mais c'est global ce « on », voilà.
Christiane Taubira, on reprend cette conversation dans une minute, tout pile, il est 8h40. Victor Maté, là, pour l'essentiel.
Les gardes à vue toutes levées chez les proches de l'homme abattu samedi par des soldats à l'aéroport d'Orly, âgé de 39 ans. L'autopsie révèle qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue juste avant de saisir l'arme d'une militaire de l'opération Sentinelle. La sécurité, l'un des thèmes du débat de ce soir sur TF1, retransmis en direct sur France Info à partir de 21h. Les 5 candidats favoris des sondages se retrouvent pour un débat totalement inédit. Les élèves et les parents d'élèves de terminale sont prévenus. Plus que quelques heures pour les inscriptions sur le site APB, admission post-bac à 18h, il sera trop tard. Les vœux sont ensuite modifiables jusqu'au 2 avril. Les propos de Recep Tayyip Erdogan, indignes d'un chef d'État, réaction de Martin Schulz, élu hier président du Parti social-démocrate allemand, aux insultes du président turc. Après l'interdiction de meeting en Allemagne, il accuse personnellement Angela Merkel de pratique nazie. Une vingtaine d'opérations distinctes et au total 3000 personnes secourues hier au large de la Libye en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens expliquent que les migrants ont profité d'une météo favorable pour tenter de rejoindre l'Europe.
France Info. Christiane Taubira est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bernstein.
Benoît Hamon était hier en meeting à Bercy et il a attaqué assez durement les candidats de l'argent. On écoute le candidat que vous soutenez.
Vous êtes chômeur ! Vous êtes chômeur ! Créez votre entreprise ! Vous êtes pauvre ! Devenez milliardaire ! Vous n'avez qu'un t-shirt, allez vous acheter un costume, diable! Le parti de l'argent a trop de candidats dans cette élection.
Ce qui lui a valu la réponse quelques minutes plus tard d'un de ceux-là, Emmanuel Macron, c'était aux 20h de France 2 face à Laurent Delahousse.
D'abord, ça fait un peu bourger réchauffé, je vous le dis franchement. Ensuite, quand on parle d'argent, moi, j'ai gagné de l'argent dans ma vie. Parce que j'ai eu un travail et c'est très utile d'avoir eu un travail. Ensuite, l'argent, je vous le dis, il ne faut ni le chérir, ni le détester.
Est-ce que le fait d'être riche interdit d'être de gauche ?
Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Et si monsieur, en tout cas pour moi c'est pas ça le sujet. Si monsieur Macron réagit avec cette précision, c'est qu'il a reconnu un certain nombre de ce qu'a dit.
Il a reconnu qu'il avait gagné de l'argent.
Allez acheter
non,
des costumes.
Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est parce qu'il y a eu un incident précis. Oui. Et si l'assistance réagit, c'est parce que dans notre mémoire collective, il y a cet incident-là. Ça a été une réplique de cet actuel candidat à un travailleur, un ouvrier qui, dans l'angoisse du risque de licenciement massif et de fermeture de son entreprise, lui fait un commentaire sur son costume et il réplique à l'ouvrier, vous n'avez qu'à aller vous en acheter un. C'est pour ça qu'il réagit. Donc c'est une réplique et c'est ça dans les campagnes électorales. Il y a des choses qui, par quelques mots, 3-4 mots, évoquent des choses qui nous sont communes à toutes.
Est-ce que c'est parti de l'argent?
Le sujet.
Est-ce que c'est très digne?
Il n'est pas. Hamon n'a pas dit les candidats de l'argent, il a dit le parti de l'argent.
C'est ce que je vous dis, le parti.
À trop de candidats. Donc la question, c'est pas. De toute façon, on sait bien que la gauche a un rapport sur l'argent, qui est un rapport culturellement, historiquement, qui conduit parfois à des phrases un peu sommaires.
Et à des comportements parfois qui ne correspondent pas à ces phrases.
Non, mais en tout cas, dans les deux extraits que vous avez montrés, il y a l'évocation de 3 incidents qui sont très clairs et qui sont très très présents encore dans nos mémoires, dans notre mémoire collective, dans nos mémoires individuelles, et puis il y a la réponse d'un candidat qui lui-même a dit il y a quelques années, pas très longtemps, que le rêve de tout jeune était de devenir milliardaire.
On ne généralise pas.
Moi, je suis toujours très prudent dans une campagne, mais
Vous ne prononcez pas le nom d'Emmanuel Macron ?
Non, c'est pas une question de prononcer son nom. Vous l'avez montré, donc tout le monde sait de qui nous parlons.
Mais vous ne mentionnez pas un candidat.
Attendez, si je suis venu faire une séance de psychanalyse,
vous me dites.
C'est très artificiel de ne pas citer Emmanuel Macron. On se demande pourquoi vous ne le citez pas tranquillement. Voilà, c'est tout.
Et pourquoi je devrais dire son nom ? Pourquoi ? Pour faire.
On note que vous n'y arrivez pas. Voilà.
Ben notez-le.
Est-ce qu'il est de gauche,
notez-le.
Emmanuel Macron ?
Si ça.
Est-ce qu'il est de gauche, Emmanuel
Macron ? Non, moi je suis pas venu analyser Monsieur Macron. Excusez-moi, Monsieur Macron dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche.
Est-ce qu'il fait partie de votre famille politique ?
La moindre des choses, c'est de se nommer soi-même. Ça, c'est la règle de base de toute sociologie depuis des dizaines d'années. Voilà. Les plus grands esprits en sociologie vous expliquent que le premier pouvoir de l'individu, c'est de se nommer lui-même. Lorsque Monsieur Macron, voilà, vous êtes content ? Vous êtes.
Ah, on arrive! 8h45 voilà. Et 30 secondes.
Je sais pas, voilà. Non, mais c'est puéril, pardonnez-moi, monsieur.
Mais non, c'est pas puéril.
C'est vraiment puéril.
Les blocages,
donc, lorsque lui-même se définit et se qualifie, qui suis-je pour venir lui dire qu'il n'est pas ça? Voilà. Donc, la politique, ça doit être clair. Lui, il dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Vous n'allez pas, chaque fois que je viens sur un plateau, me demander de lui donner un label. D'abord, je ne crois pas de label.
Vous êtes en colère?
Non, j'ai un tempérament vif, y compris le matin.
On note que beaucoup de vos anciens collègues du gouvernement, vous avez quitté le gouvernement en février 2016, donc c'est pas si vieux que ça. Beaucoup de
janvier, exactement. Le 27.
Voilà.
Presque. Dans une vie.
Janvier 2016, soyons précis. Beaucoup de vos anciens collègues soutiennent Emmanuel Macron, ou vont soutenir Emmanuel Macron. Par exemple, on attend peut-être pour aujourd'hui le ralliement de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous pensez que ça affaiblit la campagne et la crédibilité de Benoît Hamon ?
Il est certain qu'à partir du moment... Moi, je n'ai pas envie de porter une qualification sur les choix, les ralliements, comme vous dites. Moi, je ne trouve pas le mot très joli. Mais il est précis.
Oui, il dit,
et je crois qu'il caractérise. Mais bien sûr.
Qui disait qu'il faut nommer les choses.
Ce n'est pas le mot qui n'est pas joli.
C'est
tout à fait. C'est Camus. Sinon, on ajoute du malheur au monde. C'est toujours Camus. Donc, quand je disais, ce n'est pas que le mot que vous avez choisi ne convient pas. C'est que, justement, il dit bien ce que cela représente comme comportement. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Je mène des combats politiques. Je les mène avec conviction. Je les mène avec des références précises. Je les mène avec une espèce d'obsession dans ma tête, de fidélité à des valeurs, de loyauté vis-à-vis des citoyens. Voilà, c'est le cadre que je m'impose. Il est extrêmement rigoureux. Il pèse très fortement sur ma conscience et sur mon comportement. Donc après, je ne porte pas de jugement de valeur sur les autres. Je pense qu'il eût été plus concevable et plus lisible pour les citoyens, notamment pour les militants de gauche, que des ministres de gouvernement de gauche qui ont été portés au pouvoir grâce à la mobilisation des militants de gauche renforcent le camp d'un programme de gauche avec une préoccupation de justice sociale, avec un souci de l'avenir, avec une inquiétude sur les mutations de la société, avec des propositions de solutions pour que nous vivions ce 21e siècle avec plus d'harmonie. Je pense que c'eût été un peu plus cohérent.
Vous avez dit de Benoît Hamon qu'il, vous l'avez dit hier, hein, qu'il redonnait de la dignité à la politique.
Oui, c'est vrai.
Qui a fait perdre de la dignité à la politique ?
C'est pas ça le sujet, je viens de vous dire que moi je ne crois pas de jugement de valeur.
C'est fou ce qu'on me pose mal les questions ce matin.
Oui, moi je trouve aussi, aussi, monsieur Appet. Oui, en plus ça ne vous ressemble pas.
Non, d'habitude je les pose mieux, mais là ce matin, je n'y arrive pas.
On est désolé.
Oui, non, mais moi je vous ai fait une piqûre en arrivant, une piqûre télépathique, vous ne vous en êtes pas rendu compte.
Ah, c'est ça.
Je vais essayer, vous dites qu'il redonne des lettres de noblesse à la politique, c'est aussi, l'élection présidentielle, c'est aussi une incarnation. Est-ce que vous imaginez Benoît Hamon à l'Élysée ?
Mais si je soutiens Benoît Hamon, c'est bien parce que...
Parce que, en fait, beaucoup de Français, je vous pose la question, parce que beaucoup de Français, en fait, n'imaginent pas Benoît Hamon à l'Élysée. On sent qu'il y a un problème d'incarnation.
Mais j'ai beaucoup lu aussi que les Français ne perçoivent pas de dimension présidentielle chez monsieur Macron. Je ne sais pas si vous allez demander à monsieur Le Drian si... il rallie, comme vous l'annoncez, M. Macron, s'il voit M. Macron à l'Élysée.
Bien sûr, on
d'accord.
lui demandera. Bien
donc,
sûr.
Bon, ben, vous lui demanderez. Bien sûr. Si c'est répondre, ça veut dire qu'il est plus habile que moi.
Voyez, on a entendu hier, le SPD allemand tenait un congrès qui a désigné Martin Schulz.
Alors, je ne suis pas en train de refuser de répondre. Hein.
Mais, j'ai
mais,
rien
mais je veux dire qu'il y a une logique dans le fait de s'impliquer dans une campagne présidentielle. La logique, c'est qu'on a confiance dans le candidat et qu'on fait tout pour le conduire en situation d'agir. Voilà, donc c'est pour ça que je vous réponds comme ça à la question.
Le président sortant.
Si je n'y croyais pas, attendez, moi, je continue. Voilà.
Le président.
non, vous non, feriez autre chose.
Je lis toutes les nuits, je pourrais passer mes journées à lire aussi.
Jean-Michel.
Le président sortant des sociaux-démocrates allemands, Sigmar Gabriel, hier à la tribune, a dit ce qui serait formidable, c'est que Martin Schulz, gagne les élections législatives en Allemagne et que Emmanuel Macron, les gagne à Paris. Vous voyez, vos copains sociaux-démocrates allemands, ils ont du mal à imaginer Benoît Hamon à l'Élysée.
Mais c'est leur affaire. Pas eux qui font l'élection, d'une part.
Ça dit quelque chose,
ce sont
quand
des
même.
Amis très proches, intimes, qu'on aime beaucoup.
Ça dit quelque chose,
avec lesquels on essaie de mettre plus de justice et de douceur dans le monde. Ça dit.
Et
ça
il n'imagine pas la victoire de Benoît Hamon.
Bah, c'est son affaire, si ça,
monsieur
son Sigmar imagination
Gabriel, qui est président sortant des sociaux-démocrates
allemands.
Mais
il n'est pas là pour imaginer ce que les Français vont décider souverainement dans un suffrage universel.
Il n'y a pas un déficit d'incarnation de Benoît
Je viens
Hamon.
De dire que j'ai lu à plusieurs reprises que M. Macron n'a pas de carrière présidentielle. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, voilà. Donc si on passe notre temps à débattre qui a la carrière, qui a le potentiel, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est se battre pour des idées. C'est s'ancrer dans des valeurs.
Les incarner également.
C'est être lisible et crédible vis-à-vis des citoyens. C'est
il
ça.
Il est 8h50 sur France Info. On reste ensemble. Victor Mattel.
Quel modèle social pour la France ? Quel modèle économique ? Quelle place aussi pour notre pays dans le monde ? Les thèmes du débat de ce soir sur TF1 entre les 5 principaux candidats à la présidentielle. C'est du jamais vu. C'est à suivre à la radio en direct et en intégralité sur France Info. L'autopsie de l'homme de 39 ans tué par des soldats samedi à l'aéroport d'Orly après avoir dérobé l'arme d'une militaire. Il était sous l'emprise de drogue et d'alcool. Au moment des faits, du côté de l'enquête, les gardes à vue du frère et du cousin ont été levés. En football, le feuilleton continue. Le PSG revient une nouvelle fois à 3 points du leader Monaco. Victoire hier soir 2-1 contre Lyon. Une première pour une Française depuis 93. La skieuse Tessa Worley remporte la Coupe du Monde de slalom géant. Et puis géant tout court, Roger Federer a bientôt 36 ans. Le Suisse remporte le Masters 1000 d'Indian Wells. Il avait déjà gagné l'Open d'Australie en janvier dernier.
Tiens, Taubira, dans l'émission politique sur France Info ce matin, question Gilles Bernstein.
Oui, la tentative d'attentat hier à Orly montre que la menace est toujours réelle. Est-ce qu'il faut lever l'état d'urgence, comme le propose par exemple François Fillon ?
Non.
Est-ce qu'il faut maintenir ?
Est-ce qu'il faut maintenir ?
Pas lever, maintenir.
Vous avez raison, on pose mal les questions. Enfin, je pose mal les questions. Faut-il maintenir l'état d'urgence ?
Vous nous tétanisez, voyez.
Comme le propose, entre autres, François Fillon.
Non, par nature, un état d'urgence, c'est un état dans l'urgence. Donc, pérenniser un état d'urgence, c'est insensé. C'est une démonstration de faiblesse de l'État ou d'incapacité à construire des réponses durables. Or, ce gouvernement a fait différemment. Alors, c'est vrai que l'état d'urgence a été maintenu de façon inattendument longue. Mais il n'empêche que dans le dernier texte adopté, puisque je l'ai préparé, de procédure pénale, il y a des dispositions qui ont été prises pour mieux armer aussi bien les services d'enquête, les services de renseignement et le parquet, pour mieux les armer de façon à être très réactifs dans certaines situations. Mais un état d'urgence qui perdure n'est plus un état d'urgence, ou alors on n'est plus dans un état de droit. Donc c'est une question extrêmement sérieuse qui doit échapper à des slogans et à la facilité, et qui doit rappeler les responsables politiques à leur responsabilité, à savoir dans l'urgence, prononcer un état d'urgence et créer les conditions d'une grande réactivité, une grande efficacité, mais en même temps travailler immédiatement à ce que ce qui doit être renforcé dans nos dispositifs de procédure, dans nos dispositifs d'enquête, dans nos dispositifs de rapidité, que tout cela soit mis en place et à la disposition de nos services tout à fait officiels et réguliers, c'est-à-dire les services d'enquête de police et de gendarmerie, bien sûr, et les services judiciaires. Je répète, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait en respectant l'état de droit, c'est-à-dire lorsque nous avons augmenté les pouvoirs, nous avons, comme dans un état de droit, comme cela s'entend dans un état de droit, nous avons en face prévu des contrôles, c'est-à-dire que nous avons des juges du siège indépendants qui vérifient qu'un certain nombre de procédures qui peuvent être déclenchées en urgence le sont à bon droit.
Et donc vous êtes pour la levée de l'état d'urgence qui est prévu pour...
Sinon il devient insensé.
Qui est prévu pour cet été. Hier, une manifestation s'est déroulée à Paris pour dénoncer les violences policières. Ce sont les familles et les personnes qui se présentent comme victimes de ces violences qui l'ont organisée. Vous les soutenez ?
Il y a des violences de policiers. Cela ne représente pas la totalité de l'institution. Et je pense qu'il y a beaucoup de policiers, en tout cas moi j'en connais beaucoup, qui sont extrêmement ennuyés de ça, mais même blessés.
Mais est-ce qu'il y a un niveau de violence qui vous paraît préoccupant en France, aujourd'hui ?
Attendez, lorsque des gens meurent dans des situations qui méritent quand même au moins des procédures de justice, il y a un vrai problème. Lorsqu'il y a des contrôles... Pardon ?
Vous pensez à Adama Traoré ?
Je pense à Adama Traoré, je pense à alors Ziyad Ebouna, c'était une situation différente, mais c'est plus une situation de rapport à la police et d'inquiétude infondée qui dit quand même beaucoup de choses sur le lien entre la police et une partie de la population.
Mais les manifestants d'hier ne dénoncent pas que des violences qui entraînent la mort, c'est des violences au quotidien.
Non, oui, c'est des violences de contrôle, puisque l'affaire Théo, voilà. Et puis on a découvert évidemment qu'il y a d'autres affaires, qu'il y a des jeunes qui osent parler.
Est-ce que c'est préoccupant Est-ce que le niveau de violence aujourd'hui en France, de violence policière, s'il existe, est-ce qu'il est, selon vous, préoccupant, Christiane Taubira ?
En toute responsabilité, il y a en tout cas une parole qui exprime cette violence et qui montre qu'il y a des cas qui méritent d'être examinés de façon très, très sérieuse. Et peut-être que l'attention nouvelle de la société sur ces questions-là permet que des choses qui étaient tues se disent maintenant. Je ne suis pas en situation objective, avec des éléments objectifs, de vous dire si le niveau de violence augmente. Ce que je peux vous dire, c'est que l'institution républicaine qu'est la police doit être exemplaire et que pour la majeure partie des femmes et des hommes qui servent cette institution, ils sont exemplaires. Raison de plus pour être absolument sans complaisance avec celles et ceux qui trahissent l'institution en se comportant de façon inadmissible, non conforme au droit d'une part, et non conforme à l'esprit républicain.
Des costumes ont été offerts à François Fillon, candidat républicain. Est-ce que vous savez, vous est arrivé dans votre vie politique qu'on vous propose de vous offrir des habits ? Est-ce que vous les avez acceptés ? D'une manière générale, quel avis avez-vous sur cette affaire ?
Alors, on me propose même depuis une dizaine d'années un vélo électrique.
Vous l'avez accepté ?
Non, depuis une dizaine d'années, je pédale sur mon Décathlon ici à Paris et sur mes Peugeot.
Attention, vous venez de faire de la pub pour Décathlon.
La pub.
Et Peugeot à Cayenne, je continue, puisque j'ai quatre vélos en
tout. Les habits, c'est une pratique courante dans la politique ou pas ?
Je ne pense pas, en tout cas, moi, on doit trouver que mon style me convient, puisque je ne fais pas l'objet de propositions.
Vous soutenez Benoît Hamon ?
Oui.
On l'a dit au début de
sans
cette
réserve,
émission,
oui.
On le rappelle, sans réserve, voilà, ça c'est vous qui le précisez.
Avec enthousiasme en plus.
Et avec enthousiasme, on enregistre. Est-ce que vous attendez un soutien de la part de François Hollande au candidat que vous soutenez sans réserve et avec enthousiasme ? François Hollande, est-ce que vous attendez qu'il soutienne Benoît Hamon ?
C'est sa souveraineté de dire à quel moment il porte une parole dans la campagne. Je pense que cette parole serait légitime. Je suppose qu'elle est attendue. Et pas seulement par des candidats, pas seulement sans doute par le candidat légitimement issu des primaires, mais par les citoyens, qui, parce que le président de la République, il est président de la République, il préside aux destinées
donc
de la
s'exprimer.
Nation, il demeure qu'il a un parcours politique, il a, et c'est ça la beauté de la
et
démocratie.
Vous espérez qu'il s'exprime pour votre candidat ?
Je pense que ce serait normal qu'il s'exprime d'abord dans la campagne, et ensuite que
donc
ce soit
ça veut dire
pour le candidat
avant le
légitimement
tour.
Ouais, ouais. Issu des primaires.
Avant le premier tour.
Oui, je crois. Je crois. Tour. Je trouve ça souhaitable.
Comment avez-vous ressenti
Enfin, je n'aurais pas la migraine s'il ne le fait pas.
Comment avez-vous ressenti la position de Manuel Valls, qui réitère dans le JDD sa méfiance vis-à-vis de Benoît Hamon ?
Étrange. Étrange pour le tempo, étrange pour le contenu, étrange pour les références.
Étrange pour le contenu, parce que...
Étrange pour le tempo, le matin d'un grand meeting, ça, voilà, je trouve que ça ressemble beaucoup à de la déloyauté, qui est un très, très vilain sentiment. En tout cas, pour moi, c'est très, très, très vilain. Très vilain au sens français étymologique du terme, pas.
Le contenu.
Et puis sur le contenu, étrange aussi parce que Manuel Valls a dit qu'il allait se conformer à la règle des primaires, qui me paraît une règle compliquée justement lorsqu'il y a de telles divergences entre les candidats, mais il a réaffirmé qu'il allait se tenir à cette règle. Il a déjà montré qu'il respectait une règle contre ses convictions, c'était pendant le débat et le vote sur le traité européen.
2005, oui, ça.
Donc
ancien.
Voilà, d'accord. Nous sommes à un mois de l'élection, il ne dit pas qu'il soutient. Ça me paraît étrange comme démarche.
Merci Christiane Taubira d'avoir accepté l'invitation de France Info.
Et on se retrouve demain.
Merci de m'avoir reçu.